Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec l'équipe de C'est à vous, une équipe remaniée, mais une équipe fidèle et loyale et recomposée. Voilà, bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir,
Mohamed. Oulala, Mohamed est très loin. À distance. Votre choix de votre story du jour.
Une professeure violemment agressée dans le 6e arrondissement de Paris, dans un lycée prestigieux. Je vous raconte cette histoire ce soir.
Mathieu, dans votre 5 sur 5 ce soir.
La Haute Autorité de Santé qui recommande la vaccination pour les enfants fragiles et ceux qui vivent avec des personnes immunodéprimées. On pose la question ce soir.
Pierre, votre œil.
1950, 2000, 300 photos de Paris Match racontent la vie, 50 ans, de la vie des Français et de la France.
Et David, votre édito ce soir.
Éric Zemmour se déclare, Joséphine Baker entre au Panthéon. On a eu aujourd'hui un prélude au débat idéologique des prochains mois.
Les idées qui vont s'affronter lors de cette campagne présidentielle. Pour en parler ce soir, on accueille Sophie Dravinel, grand reporter au service politique du Figaro, et Tugdual Denis, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Merci à tous les deux de votre présence. Nos invités ce soir après 20h, Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Ben Attal, une entreprise familiale ce soir puisqu'ils sont réunis, l'un derrière la caméra, les deux autres devant, pour l'adaptation de l'excellent roman de Karine Thuil, Les choses humaines. Ça sort demain au cinéma, on en parle très longuement avec eux. Alain Chamfort, Manu Manureva est également notre invité souvenir ce soir autour de Rouget. En deux cuissons, voilà, que nous propose Olivier Vallat, notre chef du restaurant La Chapelle à Montluçon. Bonsoir, cher Olivier.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Ah, pardon, c'est à vous. Vous me confirmez bien que ce sont des rougets.
C'est bien du rouget. Rouget d'Atlantique, en deux cuissons, fenouil, du safran bio de Lavaux-Sainte-Anne à côté de Montluçon, et un petit peu de pommes de terre et du safran. Voilà.
Voilà, je suis rassurée, il y aura bien à manger ce soir après 20h. Merci beaucoup, chef. À tout à l'heure. Il était donc un peu plus de midi quand, sur les réseaux sociaux relayés par les chaînes info, Éric Zemmour a fini par dire dans une vidéo ce que tout le monde pressentait déjà.
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République.
C'était le plus grand faux suspense de l'histoire des candidatures à l'élection présidentielle, Sophie Dravinel.
Oui, absolument, le plus grand suspense. Et puis aussi, une chose très curieuse, suivie très vite des interdictions, des droits divers et variés, des images qui avaient été employées très, très impressionnantes pour certaines, mais qui ont été prises sans demander l'autorisation à leurs auteurs, aussi, les extraits de films, de cinéma ou autres. Donc un peu paradoxal, un peu bizarre.
Oui, c'est de l'amateurisme, c'est ça?
Ou de la précipitation? Ou l'idée qu'il fallait passer outre, qu'on pouvait passer outre.
Non, effectivement, sur la forme, bon, l'utilisation du micro pour faire un clin d'œil au général de Gaulle, on ne sait pas si ça le crédibilise ou si ça le ridiculise.
Vous en pensez quoi, Tugdual Denis ?
Moi, je pense que sur la forme, ce n'était pas extraordinaire. Alors effectivement, en plus, s'ils n'avaient même pas demandé les droits, pour certaines images, nous, on a une chaîne YouTube, et effectivement, on sait très bien qu'on est vite rattrapé par la patrouille. Dès que vous utilisez une chanson, vous n'avez pas le droit.
Mais là, il y a une levée de bouclier. Valérie Trier-Vallère n'est pas contente. Émeric Caron n'est pas content.
Éric Zemmour a un peu plus d'ennemis que la moyenne dans ce pays. Sur le fond, si vous voulez, moi j'ai trouvé qu'il appuyait sur quelque chose d'assez essentiel et qui est partagé par pas mal de gens de la classe politique, y compris en Macronie, qui est le sentiment de dépossession auquel il a beaucoup tourné autour du début de sa vidéo. Il a un peu amendé sur 2-3 sujets. Il dit que l'immigration n'est pas responsable de tout et il a un peu parlé d'économie.
Ça c'est le fond, mais sur la forme,
ouais,
c'est vrai.
Mais je vais vous faire plaisir quand même sur une chose, c'est que sur le fond aussi, il attend la 8e minute pour parler un peu de choses qui donnent de l'espoir. C'est-à-dire que c'était très, très catastrophiste et décliniste pendant les 8 premières minutes.
Apocalyptique.
Et, et, et,
oui,
et, y a deux petites minutes à la fin sur un peu la suite et sur ce qu'il pourrait faire, lui, pour redresser le pays. Maintenant, il ne faut pas être dupe non plus. Hein. Elle a fait 1 million de vues en quelques heures. Ce soir, je pense qu'il a fait un gros score au JT d'une chaîne concurrente.
Il y a un vrai
public pour Éric Zemmour, quand bien même il y a de l'amateurisme, quand bien même il y a de l'outrance.
Il y a de l'outrance, cette mise en scène à la Générale de Gaulle. D'ailleurs, il ne regarde quasiment jamais les Français dans les yeux. Hein.
C'est très étonnant, sauf au moment où il dit « vous me connaissez ». Et là, il lève les yeux, mais il ne les regarde pas directement, les Français, dans les yeux. Il les regarde un peu par en dessous. C'est très curieux en termes de communication politique. Il va sans doute y avoir énormément d'explications, d'analyses ou autres. Et puis, il y avait ce côté sombre, évidemment, la bibliothèque. Donc, ça s'adressait à la fois à une France instruite, à une époque aussi, avec les références aux films de Claude Sautet ou autres, avec cette image du Concorde, comme si la recherche scientifique en France s'était arrêtée à une autre époque aussi. C'est très étonnant. Il y avait quelque chose à la fois de saisissant, parce que moi, la 7e de Beethoven, quand j'écoute le discours d'un roi, bah, j'ai été saisie. Moi, je suis super bon public pour ce genre de musique d'association. Et puis, il y a quand même 30% de Français, effectivement, vous le dites très bien, Tugdual, ce million de personnes qui a regardé, il y a quand même une curiosité, il y a une attraction, ça fait partie aussi de cette, je dirais pas de cette distraction politique, parce que ce serait ne pas tenir compte des angoisses des Français qui sont réelles et que l'on voit dans les analyses, mais il y a quelque chose, un peu du show, du cinéma.
Après, il faut faire quand même attention. C'est-à-dire que s'il y avait eu plein de moyens hollywoodiens sur cette vidéo, on aurait ergoté aussi sur le côté un peu artificiel. Je crois que l'élection de Emmanuel Macron a prouvé en 2017 que, d'une certaine manière, un lien direct entre les électeurs et un homme politique, c'est-à-dire sans parti politique, sans une carrière politique classique. Évidemment, hein, Éric Zemmour, il fait amateur. On a l'impression qu'il a fait bricoler ça dans son garage. Mais quand vous voyez les succès...
Quand
vous voyez le succès des youtubeurs aujourd'hui par rapport à des émissions avec des grosses productions...
Alors
il y avait une formule de l'ancien ambassadeur des États-Unis en France, à Gérard Haro, qui disait Éric Zemmour, c'est Charles Maurras, mais qui a compris la manière dont Donald Trump a été élu. Donc si vous voulez,
je trouve la formule. Sauf qu'on a vu les résultats de Donald Trump.
Ouais, mais il a été élu président de la République.
Ouais, mais il avait le parti
des États-Unis, pardon, c'est la République. Mais il a quand même été élu. Donc les codes de YouTube, d'une adresse un peu directe et même d'un côté un peu cheap.
Mais on a vu
sur la forme. Je suis pas sûr que ça soit totalement contre-productif en fait.
Non, c'est pas contre-productif, mais la question c'est qu'on a vu le résultat de Trump. Et puis Trump, il a été élu parce qu'il avait un énorme parti colossal avec lui derrière lui. Ça n'est pas du tout le cas d'Éric Zemmour. Qui vont être ses porte-parole? On va le savoir. Sans doute qu'il aura ce soir effectivement un discours qui correspond à ce qui fait que une partie des Français le suivent aujourd'hui. Mais qui va porter sa parole? Est-ce que ceux qui portent sa parole auront son talent? Une forme de talent politique, d'expression orale.
Ouais, regardez les porte-paroles de la campagne d'Emmanuel Macron. Mais
on a
2017,
vu à quel point ça a été reproché au président Macron.
Bah oui, mais il a été
et il est vrai, il avait cette même solitude.
L'attente à la crème d'une rencontre entre un homme et le peuple, elle n'est pas totalement galvaudée. Et Emmanuel Macron, finalement, il a consolidé son capital politique après avoir réussi son entrée dans la
télévision. Ça lui est toujours reproché d'être seul, d'entourer de personnalités qui n'ont pas de charisme, ou qui n'ont pas de talent ou pas d'expérience.
Mais je pense qu'il s'en contrefiche.
Oui,
Emmanuel Macron.
Oui, je pense
et donc Éric Zemmour s'en contrefiche.
Et je pense qu'Éric Zemmour s'en contrefiche encore plus.
Ouais. Il pense qu'il peut diriger la France encore plus seul qu'Emmanuel
Macron.
Mais
je pense qu'Éric Zemmour, il est persuadé qu'il a un destin et qu'il appuie sur un nerf assez fondamental de la société qui est le problème d'identité. Hein, pour parler rapidement. Et que lui, il s'adresse directement à ce stimuli-là quoi, chez l'électeur.
Ouais. Ce qui est quand même assez fou, c'est que ce terme de grand remplacement a quand même été utilisé largement dans le fond de son discours, et que là, finalement, pour certains, il va ouvrir une voie pour Marine Le Pen, qui, elle, est tout à fait contente, hein, à mon avis, de ce qui se passe, parce que, finalement, il la recentre.
Il la recentre. C'est exactement là où va en venir David Doucan dans son édito, la fin de ce faux suspense. Éric Zemmour a déclaré donc sa candidature aujourd'hui, mais justement, c'est la question que vous posez. Pourquoi aujourd'hui, David?
Alors, à première vue, et c'est quelque chose qui a beaucoup été dit, on se dit il veut parasiter le Congrès des Républicains. Ce soir, c'est le dernier débat des 5 prétendants à la télévision. Et demain, les militants commencent à voter pour désigner leur champion. Mais il y a en réalité un autre événement politique qui s'entrechoque avec cette déclaration. C'est l'entrée au Panthéon de Joséphine Becker. La concomitance de ces deux faits politiques donne le ton, au fond, des débats qui vont animer notre pays dans les prochains mois. Commençons par Zemmour. La vidéo est volontairement tragique. Certains ont même dit un peu lugubre. Le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven y est pour beaucoup. Mais c'est surtout le discours du candidat. 10 minutes pour décrire l'apocalypse. Une France en déclin, un peuple en danger d'être remplacé. Et Éric Zemmour qui se dépeint comme le seul, au fond, capable de pouvoir empêcher le désastre Extrait.
La disparition de notre civilisation n'est pas la seule question qui nous harcèle, même si elle les domine toutes. L'immigration n'est pas cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous. La tiers-mondisation de notre pays et de notre peuple l'appauvrit autant qu'elle le disloque, le ruine autant qu'elle le tourmente.
Alors, c'est un détail, une coïncidence, mais notons-la. Au même moment, pour être exact, 11h59, Emmanuel Macron postait lui aussi une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit Joséphine Baker en train de chanter, en train de danser, et on entend la voix du président de la République. Il faut prêter un petit peu l'oreille.
Joséphine Baker, elle a eu tous les courages et toutes les audaces. Elle est assez synthétique de ce qu'est être française, elle qui était américaine. À la fois la résistance, ce combat pour l'universalisme, une forme de générosité, une liberté absolue.
Universalisme, générosité, liberté absolue, Macron nous propose sa définition de l'identité française. Qui est Joséphine Baker ? C'est une femme, noire, française d'origine américaine, résistante, militante antiraciste, infatigable, défenseuse de l'universalisme. C'est le symbole, au fond, d'une France dont Éric Zemmour ne nous parle pas.
En une seule journée, on se dessine donc l'un des clivages de la présidentielle.
Oui, en tout cas, celui que Zemmour essaye d'imposer. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, s'en distancie un petit peu. Elle était présente à la cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker. Et on en parlait hier de cela. Zemmour la recentre. Mais posons-nous, autorisons-nous la question suivante. Est-ce que ce clivage avec d'un côté des progressistes et de l'autre des nationalistes est une fatalité? Les Français sont nombreux à dire qu'ils ne veulent plus de ce duel avec l'extrême droite, sauf que la gauche n'a pas du tout réussi à se reconstruire depuis 2017, c'est le moins que l'on puisse dire. La droite y parviendra peut-être. Dans quelques jours, elle aura un candidat unique choisi par ses militants. Mais le plus dur commencera alors pour elle ou pour lui, pour ce candidat ou cette candidate, c'est-à-dire exister, trouver sa place, se distinguer, tout en étant pris dans une tenaille entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre Le Pen-Zemmour.
Est-ce qu'on a eu tort de penser justement qu'Éric Zemmour voulait, en se déclarant aujourd'hui, parasiter le dernier débat LR qui a lieu ce soir sur France 2 et le scrutin qui commence à partir de jeudi?
Non, il a sans doute envie de s'imposer dans ce débat et de s'imposer parmi, pour essayer de récupérer une partie de cet électorat. Parce qu'évidemment, c'est aussi une partie de cet électorat de François Fillon de 2017 qu'il vise. Mais la question, moi, je me pose, c'est est-ce que, évidemment, quand il y a un candidat qui va sortir là ce week-end, enfin cette fin de semaine, évidemment qu'il y a un mur qui va être construit, un mur très élevé. La question, c'est de savoir comment Éric Zemmour va faire pour se défendre face à ce candidat de la droite qui quand même bénéficie d'un pourcentage de 15 à 20% sans doute d'opinion, d'intention de vote. Et c'est là où ça va être difficile pour lui. Et c'est lui qui risque d'être pris en tenaille entre Marine Le Pen et ce candidat de la droite qui va apparaître aux yeux d'un électorat fidèle LR comme celui qui va les défendre d'une défaite qui leur a été volée, d'une victoire qui leur a été volée en 2017. Et donc ce candidat-là de la droite risque d'avoir une certaine force.
Mais au fond, ne croyez-vous pas, Tuc Dual, qu'Éric Zemmour ne cherche pas à être en concurrence avec les Républicains, il les disqualifie? À ses yeux, ils sont disqualifiés, ils sont déjà disqualifiés. Est-ce que ce n'est pas...
Moi, j'ai tendance à penser que les Républicains sont morts depuis 2017, en fait. Et d'ailleurs, je ne croyais pas vraiment au pari originel de l'UMP, c'est-à-dire de mettre sur une estrade Thierry Mariani, la droite très forte, et des centristes, et bon, pour des raisons un peu électorales, de circonscription, d'alliance partisane, de les avoir mis dans la même salle. En fait, ça ne tenait que sur la personnalité de Nicolas Sarkozy à l'époque, en 2007. Donc c'était un peu une alliance contre nature. Je crois plus à la politique de l'offre, comme ça avait été celle de François Fillon en 2016. C'est-à-dire, il avait façonné son projet avec François Sureau, Patrick Stefanini, qui est aujourd'hui avec Pécresse, Henri de Castres. Donc des gens assez variés. Et puis il est arrivé en disant, voilà, aux électeurs de droite, c'est ça mon projet, ça vous plaît pas. Et puis finalement...
Et c'était un projet global,
et finalement, ça leur avait plu. En revanche, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a un vrai duel Macron-Zemmour. Et que Joséphine Baker et la vidéo de Zemmour aujourd'hui, c'est pas du tout anodin. C'est pas du tout anodin parce que, en fait, Emmanuel Macron, il va faire, et là c'est un peu son point commun avec Zemmour ou Zemmour son point commun avec Emmanuel Macron, il va faire une présidentielle de récit. Quand vous parlez avec des macronistes, ils vous disent la question qu'il faut poser à une élection présidentielle, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français. Spoiler, ils n'ont pas la même réponse, Zemmour et et Emmanuel Macron, mais ils ont chacun leur référent historique. Ça va être Joséphine Baker, ça va être la France des Trente Glorieuses, ça va être la France Dreyfusarde pour Emmanuel Macron.
Et pour Éric Zemmour,
ça va être évidemment quelque chose de plus traditionnaliste. Mais l'un et l'autre sont dans une présidentielle de récit. Et c'est là où
C'est-à-dire Jeanne d'Arc
Pour Zemmour, ça va être Jeanne d'Arc. Vous avez bien vu aussi qu'il a un petit distinguo avec certains historiens sur le rôle de De Gaulle et de Pétain pendant la guerre. Vous avez bien vu
un
que...
C'est pas un petit distinguo.
Ouais. Un gros hiatus, pardon, excusez-moi la mauvaise formule. Mais qu'il est dans la controverse historique, en tout cas.
Vous avez vu qu'il conclut en disant « Vive la République » et surtout...
Quelle est à vos yeux la signification de ça? Je peux comprendre. On ne défend pas la gastronomie républicaine. On n'a pas des coutumes républicaines. Il y en a, mais aussi une histoire de France qui commence avant 1789. Ça ne veut pas dire que 1789.
Donc c'est vive la France, peu importe que ce soit une république. Mais
toute la France. Ouais. C'est pareil. Emmanuel Macron aussi était là-dessus quand il était allé dans la basilique de Saint-Denis.
Exact. Bah, à Nice aussi.
Oui,
après
mais
les attentats,
il avait dit
c'est. C'est-à-dire que c'est cette volonté, effectivement, dite par Emmanuel Macron dans son livre Révolution aussi, de parler de l'identité de la France, de reparler aux Français. D'avoir cette vision que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a voulu aussi imposer dans ses différentes campagnes. Quand il a voulu remettre le drapeau bleu-blanc-rouge à la place du drapeau rouge, il y avait bien cette idée-là, qui autrefois avait été dénigrée par un communiste dont je n'ai plus le nom, mais qui était à Lyon, et tout le monde lui était tombé dessus parce qu'il utilisait le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais non, il y a eu un mouvement inverse de réappropriation de cette histoire. Emmanuel Macron l'a incarné. Et là, évidemment, il y aura des discours différents. Je suis d'abord sûre que, effectivement, il y a cette volonté de prendre Éric Zemmour de la part d'Emmanuel Macron comme adversaire aujourd'hui spécifiquement, parce qu'il sait bien que aussi, peut-être que son adversaire le plus redoutable, ce sera Marine Le Pen. Donc il y a une volonté aussi d'affaiblissement réciproque.
Ou même Xavier Bertrand. Après, un dernier point commun entre tous les deux, comparé par exemple à ce qu'on entend dans les débats LR, c'est qu'ils sont tous les deux pas dans le catégoriel. C'est-à-dire que vous n'entendez pas Éric Zemmour parler de la formation professionnelle et vous entendez plutôt Emmanuel Macron effectivement enchaîner les commémorations mémorielles, avoir une espèce de discours métapolitique, si je puis me permettre.
Il y aura peut-être des propositions chez Emmanuel Macron. Pour l'instant, on n'en voit pas une du tout chez le candidat Zemmour.
Je pense que Emmanuel Macron ne fera pas l'erreur de rentrer dans le détail technique du catégoriel qui n'intéresse pas les Français au moment d'une élection présidentielle.
Il aussi flou et large qu'Éric Zemmour parce qu'il nous propose de revenir à la France.
Par ailleurs, regardez pendant le grand débat, Emmanuel Macron, il arrive pendant le grand débat, il est capable de vous expliquer comment marche un syndicat des eaux dans une sous-préfecture du fin fond de la France. Il a évidemment énormément plus de compétences techniques qu'Éric Zemmour, mais je suis assez certain, et pour en avoir discuté avec certains de ses conseillers, qu'il mettra un peu de ses compétences techniques en retrait pour essayer justement de se radresser à la France avec une vision stratégique, métapolitique, historique et quelque part avec un peu plus de profondeur de champ finalement.
Dans un contexte de crise, d'anxiété, les Français seront sans doute aussi attentifs à la notion de compétence. Mais cette déclaration d'Éric Zemmour, évidemment, a entraîné beaucoup de réactions politiques. Écoutons-en quelques-unes.
On avait plus l'impression que c'était une déclaration à l'élection présidentielle de 1965 que de celle de 2022. C'est peut-être son côté vintage.
Éric Zemmour est à la politique ce que la série Z est à l'œuvre cinématographique. Et c'est vrai que sa déclaration reflète ce que le cinéma peut faire de plus mauvais et ce que la politique, manifestement, peut faire de plus mauvais.
Je vous propose, Monsieur Aubert, quand la vidéo absolument ignoble de Monsieur Zemmour est diffusée, de ne pas courir les plateaux pour vous féliciter du futur travail que vous aurez avec lui, mais plutôt de rester dans l'arc républicain.
Alors, Sophie Dravinel, est-ce que cette déclaration de candidature peut suffire à relancer la campagne d'Éric Zemmour? Parce que, on l'a bien vu, ces derniers jours, il a traversé une très grosse zone de turbulence.
Oui, ces derniers jours, voire peut-être
ces dernières semaines.
Voilà. Rarement, on a vu que les déclarations de candidature avaient un effet immédiat. Donc je pense qu'il va falloir, au moins dans l'histoire des différentes déclarations, il va falloir attendre un peu. On va attendre de voir son meeting. On va attendre de voir un peu quels sont aussi les événements, évidemment, qui vont ponctuer ce mois de décembre, voire ce mois de janvier. Je pense que toute la campagne-là va être très dépendante de facteurs extérieurs. Évidemment, la campagne sanitaire, puisqu'on voit que ça repart un peu. Donc, la cote de confiance du chef de l'État. Est-ce que Emmanuel Macron va en pâtir? Est-ce qu'Éric Zemmour pourrait bénéficier aussi d'autres événements? On voit ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe. On voit des émeutes, on voit des tensions. Est-ce que lui, il va essayer de capitaliser là-dessus? Évidemment, on n'en sait rien. Et là encore, ça va beaucoup dépendre, pas forcément de qui sort des LR, parce que je pense de la primaire des Républicains, parce que je pense que là, ça, quel que soit le candidat, il va y avoir vraiment un face-à-face avec Emmanuel Macron, et ça, ça va être fort.
Il aura ses 500 signatures.
Moi, j'ai cette conviction-là qu'ils ne sont pas morts.
Il aura ses 500 signatures, et Zemmour, il en a deux chances d'un 150, là.
Et puis, apparemment, il en perd en ce moment plutôt qu'il en gagne.
C'est compliqué. Ça va être compliqué.
Il y a des gens qui sont en retrait. Il est clairement dans une...
On pourra avoir cette espèce de rebondissement incroyable.
Et puis, le financement aussi.
Oui, il y a le problème du financement, il y a le problème même des ralliements des équipes. Enfin, il ne manque pas d'obstacles en ce moment. En revanche... pardon de jouer à mon rôle de journaliste de Valeurs Actuelles, mais je pense qu'il faut faire quand même attention au bruit général du moment qui consiste à enterrer trop vite Éric Zemmour. Il faut quand même se souvenir...
Vous avez été le premier à dire qu'il n'allait pas bien.
Je pense qu'il confond brutalité et radicalité. Et voilà, je le redis. En revanche, je pense aussi qu'il faut quand même se souvenir que c'est quelqu'un qui, il y a un mois et demi, n'existait pas dans l'atmosphère politique. C'est quelqu'un qui a réuni 4 millions de personnes sur une chaîne d'info un soir pour un débat avec Jean-Luc Mélenchon. Et surtout, c'est quelqu'un qui est plus fondamentalement, à mon avis, explore la troisième voie qui, je pense, est celle opérante à droite aujourd'hui. Alors, en ce moment, il n'y arrive pas. Je ne dis pas du tout qu'il a l'équation politique suffisamment sophistiquée pour l'incarner de manière absolue. Mais quel est le problème avec la droite aujourd'hui en France? Elle est coincée entre le Front National et le Rassemblement National qui, avec un discours peu raffiné, avec des incarnations dépassées et un peu usées, type Marine Le Pen depuis le dernier débat.
Éric Zemmour est peu raffiné.
Éric Zemmour, d'une certaine manière, quand il arrive en septembre, avec ses références historiques, avec une langue un peu plus châtiée, avec son côté Le Figaro, qui convainc beaucoup plus la bourgeoisie. Moi, je me souviens très bien d'un déjeuner avec le fils d'un patron du CAC 40 qui me disait que parmi ses copains, aucun n'avait jamais voté Marine Le Pen, de plus en plus se posait la question de voter Éric Zemmour. Je pense qu'on a tous croisé dans nos milieux.
C'est en septembre.
Effectivement, mais si vous voulez, l'équation politique de se dire les LR sont trop dans la compromission et Marine Le Pen propose un discours beaucoup trop primaire, fait qu'il y a un espace politique. Après, est-ce qu'il va arriver à le capter? De fait, en ce moment, non, mais peut-être que demain, il arrivera à se redresser, quoi.
Merci beaucoup Sophie de Ravinel, reporter au service politique du Figaro. Tic Duel Denis, vous restez avec nous. Je précise que c'est pas sur Éric Zemmour, c'est la vérité sur Édouard Philippe que vous signez chez Robert Laffont, même si régulièrement les unes de Valeurs Actuelles sont consacrées à Éric Zemmour.
Pas beaucoup plus que celle de l'Express.
Ah c'est vrai, 5 en un an, c'est moins que l'Express.
Un peu moins que 5, je pense. Je suis pas sûr qu'il y ait 5 en un an.
5, 6 si on compte celle sur le phénomène CNews.
C'est
pas mal quand même.
On consacre beaucoup d'articles à Éric Zemmour, effectivement. Ouais.
C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, c'est l'histoire d'une professeure de mathématiques agressée hier en plein cours.
Nous sommes dans le 6e arrondissement de Paris, dans un quartier cossu de la capitale. Hier après-midi, dans le prestigieux lycée Montaigne, une professeure de mathématiques est violemment agressée.
Choc dans la communauté éducative, nouvel épisode de violence à l'école.
Lycée Montaigne, dans le centre de Paris donc, près du Sénat. L'enseignante a été blessée au visage pendant un cours par un élève de 15 ans.
Il l'a frappée à coups de poing à plusieurs reprises. Il a été placé en garde à vue.
Les élèves décrivent ici une personne impulsive qui pouvait s'énerver facilement.
Les cours ont repris, une cellule psychologique a également été mise en place pour accompagner les élèves qui en ont besoin.
Alors qu'un élève fait tomber sa calculette, l'enseignante fait une remarque. L'adolescent se lève, il ne supporte pas la réflexion. Il s'oppose à elle, front contre front. Tout d'un coup, il lui assène 3 coups de poing brutaux au visage et 2 dans le dos. La professeure tombe à terre. Les autres élèves se ruent sur l'agresseur pour le repousser. Appelée en urgence, la CPE retrouve la professeure assise par terre en sang dans la classe.
J'étais dans le même collège que lui avant, il était déjà assez violent avec certains élèves. Il s'est levé et il l'a mis au corps à corps. Et après, il a commencé à la taper de toutes ses forces. Au début, il a attendu et elle s'est penchée pour remettre son masque. Il l'a tapé de toutes ses forces. Elle est tombée par terre en sang. Je suis directement descendue voir l'infirmière. Et quand je suis remontée, là, on s'est fait évacuer de la salle.
Une cellule psychologique a été mise en place ce matin pour l'ensemble du personnel et les élèves, des adolescents encore sous le choc par cette violente agression.
Tous les enfants de cette classe et de l'établissement scolaire sont sous le choc. On peut dire le mot tétanisé, tremblant. Il y a une initiative de la part des lycéens. Ils ont mis en place cet après-midi une boîte à soutien pour ce professeur agressé, pour lui remonter le moral et lui dire qu'on est solidaire et qu'on défendra toute violence.
Le rectorat de Paris a condamné la violence des faits et a apporté son total soutien aux professeurs et à l'ensemble de l'équipe éducative. Le père de l'agresseur a été entendu par la police. Il a qualifié son fils d'enfant turbulent, évoluant dans un contexte familial compliqué avec des parents en instance de divorce. Un jeune homme de 1m90 qui suit des cours de lutte et d'arts martiaux. L'adolescent était toujours en garde à vue ce matin. Pour le syndicat des parents d'élèves de Montaigne, le problème n'est pas conjoncturel mais structurel. La violence est de plus en plus présente dans leur quotidien.
On est dans un quartier favorisé, c'est vrai. Néanmoins, nous avons les mêmes problèmes que d'autres établissements, à savoir des classes surchargées, des professeurs pas forcément remplacés au moment où ils devraient l'être. On rencontre les mêmes problèmes. Et la violence, le harcèlement, je suis tout aussi solidaire des violences faites contre les professeurs à Paris, Montreuil ou Charleville-Mézières. Voilà, C'est la même violence et on ne peut pas se résoudre à défendre son petit précaré.
Selon une note d'information de la direction de l'évaluation et de la prospective à la demande du ministère de l'Éducation, le taux moyen d'incidents graves a baissé très légèrement dans les collèges et les lycées. Lors de l'année scolaire 2020-2021, on dénombrait un peu plus de 10 incidents graves pour 1000 élèves, alors qu'on en dénombrait 12 lors de l'année 2018-2019. Tugduel Denis, est-ce que ce genre d'événement malheureux pourrait avoir des conséquences sur la campagne présidentielle si cela arrivait en mars ou en avril 2022?
Moi, je suis persuadé qu'effectivement, les faits divers ponctuent l'actualité. Parce que dans faits divers, déjà, il y a faits. C'est le réel, en fait, qui s'invite à chaque fois. Alors, c'est sûr, parfois, par des touches anecdotiques, par des touches qui ne sont pas toujours représentatives d'un phénomène de masse, mais qui, mis bout à bout, avec, je ne vais pas vous faire le numéro sur les chaînes d'information, les réseaux sociaux, la multiplication des canaux d'information, font que maintenant, chacun est au courant un peu ce qui se passe partout en France. Par ailleurs, puisque j'imagine qu'on s'interroge pourquoi dans un lycée un peu bourgeois peut y avoir ce phénomène de violence, et puisque vous avez eu la gentillesse de mentionner mon livre, il y a le professeur de boxe d'Edouard Philippe, qui s'appelle Majid Nassa, qui à un moment s'exprime dans ce livre, à qui je demande, parce qu'il explique que la violence est vraiment de plus en plus grande, et plus on est jeune aujourd'hui, plus les jeunes sont violents. Il compare les générations de boxeurs qui sont venus dans sa salle. Et donc je lui dis, mais alors qu'est-ce qui explique ça, quoi? Et là, il montre un smartphone, et il me dit, en fait, c'est ça qui rend les gens fous. Et je pense que, j'en sais rien, je suis pas dans la tête de ce lycéen, mais que si vous voulez, la multiplication des vidéos violentes et leur succès, et leur degré de propagation sur les réseaux sociaux font que, évidemment, tous les milieux peuvent être touchés aujourd'hui par un phénomène de mimétisme, par un phénomène de mauvaise publicité que procure la violence aujourd'hui.
Merci beaucoup Mohamed, à tout à l'heure pour la Story Média. Le 15 novembre dernier, près de 300 femmes du monde politique et universitaire exigeaient dans une tribune publiée dans Le Monde que les responsables politiques prennent enfin compte et partent au mouvement MeToo, exhortant les partis à écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de leur rang. La politique, un lieu de pouvoir concerné par les violences sexuelles et sexistes comme les autres.
Je le répète, chaque fois qu'il y a lieu de pouvoir, il y a un risque de violences sexuelles et sexistes. Mais la parole se libère. Et puis aussi, la politique que je mène, eh bien, chaque parti politique doit la mener. Chaque structure doit se poser cette question. Chaque structure politique doit avoir un référent sur les violences sexuelles et sexistes. Chaque structure politique doit recueillir la parole, la traiter, protéger à la fois les personnes qui sont victimes de ces violences, mais les personnes qui sont amenées à témoigner. Chaque structure politique doit se poser cette question et faire en sorte que tout ça n'existe pas.
Parce que le phénomène existe.
Mais bien sûr que le phénomène existe.
Bonsoir Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, aujourd'hui enseignante à Sciences Po. Vous êtes retirée, vous ne faites plus de politique. Merci de votre présence ce soir, alors que vous arrivez tout juste du Panthéon, où vous avez assisté à la cérémonie qui honorait Joséphine Baker. On y reviendra tout à l'heure dans le 5 sur 5 de Mathieu Belloir. Mais ce soir, vous apportez votre témoignage à tous ceux déjà formulés depuis que le mouvement MeToo politique prend de l'ampleur. C'est le comportement de Jérôme Cahuzac que vous dénoncez. Ce n'est pas la première fois, mais là, de façon plus précise. À l'époque, vous êtes tous les deux députés, vous élus de la Moselle. Jérôme Cahuzac, lui, est président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. On est en 2010, 2 ans avant l'accession au pouvoir de François Hollande. Et vous racontez avoir été sanctionné pour avoir refusé des avances extrêmement insistantes de la part de votre collègue parlementaire.
Oui, alors d'abord, je voudrais dire que si je raconte ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est très important, ce mouvement MeToo politique, MeToo en général, que vraiment c'est une révolution qui a eu lieu grâce à MeToo. Et pour
et
les
qui
femmes...
a tardé pour... Ben, la politique.
On a essayé, hein, et je me souviens très bien qu'il y a 10 ans, il y avait eu à l'Assemblée nationale des mouvements de femmes, droite et gauche d'ailleurs, hein, qui disaient maintenant ça suffit. Il y avait eu des pétitions, il y avait eu des prises de parole, il y avait beaucoup de femmes qui, au fond, s'étaient exprimées, notamment en 2011, au moment de l'affaire Strauss-Kahn. Et énormément de femmes politiques, de députées ou d'assistantes parlementaires, parce qu'à l'Assemblée nationale, ça concernait aussi les assistantes parlementaires, avaient raconté des choses. Et puis, finalement, c'est retombé. Et rien n'a changé à ce moment-là. Je pense que donc c'est pour ça que j'ai voulu raconter aussi d'où l'on partait. Parce que j'en ai un peu assez d'entendre toujours les critiques des excès prétendus de MeToo, des excès du féminisme, des excès de MeToo. Mais il faut voir d'où l'on vient et quel type de violence ont subi les femmes pendant des années et des années.
Celles notamment que vous avez subies, vous,
oui,
précisément.
Oui, alors en l'occurrence, ben, moi, c'était, moi, je n'ai pas été agressée au sens où, évidemment, ça n'a pas été une tentative de viol ou voilà, hein, je tiens à mettre
mais
les choses
au clair. C'était quoi, du harcèlement ?
Mais c'était, oui, du harcèlement par texto, et puis sur un lieu de travail, c'est-à-dire pendant les réunions de la commission des finances, des messages, etc. Et donc, ça avait un impact sur mon travail de parlementaire. Et surtout, au moment où vraiment il a compris que je ne céderais pas, à ce moment-là, il est devenu absolument odieux, c'est-à-dire il ne m'adressait plus la parole, et ça a eu une conséquence très directe, c'est que c'est lui, en tant que président de la Commission des finances, qui donnait donc les réserves parlementaires à l'époque. Ça a changé depuis ce système. Et ma réserve parlementaire, qui est donc ce qui permettait aux députés de financer des associations dans leur circonscription, eh bien, moi, je me suis retrouvée avec une réserve parlementaire vraiment réduite, vraiment comme peau de chagrin.
Le lien de cause à effet ne fait aucun doute.
Aucun doute, mais aucun doute. D'ailleurs, mes assistants, à l'époque, étaient estomaqués. Ils disaient, mais c'est pas possible. Enfin, puisqu'ils avaient chacun déjà 10 ans d'expérience, ils voyaient bien. Et donc, ça a vraiment eu un impact très concret. Donc, j'en ai parlé.
À lui, directement ?
Non, mais j'en ai parlé, évidemment, à lui, mais aussi à d'autres, à beaucoup d'autres. C'est-à-dire, au fond, j'en ai parlé à tous les gens à qui je pouvais en parler à l'Assemblée nationale. Le président du groupe, qui était Jean-Marc Ayrault, mais François Hollande, qui n'était pas encore président, mais qui allait le devenir, etc., etc. D'autant plus qu'on s'est retrouvés ensemble dans l'équipe de campagne de François Hollande pour la campagne de 2012. Et personne ne me croyait parce que, en fait, Jérôme Cahuzac racontait que nous avions vécu une histoire d'amour et que je n'avais pas supporté la séparation et que j'étais folle, que j'étais hystérique, que donc on ne pouvait pas travailler avec moi. Et ça a eu un impact, peut-être que Pierre s'en souvient, mais quand je suis devenue ministre, je suis devenue ministre de la Culture, lui, il était secrétaire d'État au budget, et mon premier budget, qui était catastrophique, il a fallu, comme tous les ministres, que j'aille le négocier à Bercy. Et donc, je suis allée à Bercy et on s'est retrouvés donc, dans une grande salle. Il y avait une grande table. Il y avait tous ses conseillers. J'étais venue avec tous mes conseillers. J'avais préparé mes conseillers. Je leur avais dit ce qui s'était passé, hein, eux aussi, puisqu'ils ne me parlaient pas et qu'il était absolument détestable avec moi. Et la réunion s'est passée d'une manière abominable. Donc, je faisais tout mon possible pour garder mon sang-froid.
Rester professionnel.
Oui, mais c'était quand même très difficile. D'autant plus qu'il avait raconté ça en inversant les choses, qui est un grand classique, d'ailleurs, de tous les cas de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle en général. Il avait totalement renversé les choses.
Et c'est lui qui était cru, pas vous.
Et c'était bien entendu lui qui était cru. Donc, le budget, donc j'ai dit, moi, j'accepte pas ce budget. Donc, je vais demander l'arbitrage du Premier ministre. Nous sommes allés à Matignon. Et dans la réunion à Matignon, face au Premier ministre, ça s'est extrêmement mal passé. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et je lui ai dit, j'ai dit à Jean-Marc Ayrault, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, il n'a pas un comportement normal avec moi. Et moi, je peux pas travailler avec quelqu'un comme ça. Il est en train de massacrer mon budget. Mais en fait, c'est très difficile de garder son calme dans ces cas-là. C'est moi qui suis passée pour quelqu'un d'hystérique, comme toujours pour les femmes. Donc voilà. Ensuite, j'ai dû aller voir François Hollande en lui disant, et je lui ai réexpliqué ce qui s'était passé, mais personne ne me croyait. Et un jour, Pierre Moscovici, j'ai dit à Pierre, on était en déplacement ensemble, je lui ai dit, il faut absolument que tu m'aides, c'est pas possible, moi je peux pas travailler avec lui.
Qui était ministre de l'économie, donc voilà, supérieur hiérarchique de Jérôme Cahuzac à l'époque. Oui.
Je lui ai dit, moi je ne peux pas travailler avec lui, il faut que tu m'aides, il faut que je puisse travailler avec toi. Et il m'a dit, mais enfin Aurélie, Jérôme m'a raconté vos week-ends ensemble. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de week-end ensemble, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, je me suis vraiment évertuée à essayer de leur faire comprendre en leur disant, ben, regardez les chiffres, regardez les réserves parlementaires, regardez, voilà. Et bon, c'était peine perdue jusqu'au moment où, finalement...
On s'est rendu compte qu'il mentait.
Qu'il mentait.
Mais ça n'a pas suffi.
Ça n'a pas suffi. Parce que...
Parce que le fait qu'il mente sur ses comptes en Suisse pouvait laisser penser qu'il mentait également sur ses relations avec vous, éventuellement. Mais non, ça n'a pas suffi.
Mais en fait, ça ne suffisait pas. Parce qu'en fait, on considérait que c'était moi qui étais responsable et que c'était enfin, il y a eu beaucoup d'articles, hein, parce que les journalistes aussi ont une part de responsabilité là-dedans. Il y a eu beaucoup d'articles à ce moment-là, dont moi, j'ai beaucoup souffert personnellement.
Qui disaient
qu'en fait,
qui vous ont
c'était
outé, entre
une
guillemets.
Histoire passionnelle, qu'on ne pouvait pas se parler parce que c'était une histoire passionnelle.
Que vous lui déclamiez des poèmes. C'est ce qu'il a raconté dans un livre, notamment, son équipe.
Et donc, par exemple, sur la redevance audiovisuelle, on avait eu un désaccord qui était un désaccord de fond sur la redevance. Et moi, je pensais qu'il fallait adapter la redevance aux nouveaux usages, etc. Et il a fait passer ça pour un règlement de compte personnel, alors que c'était une vraie position politique sur un sujet majeur pour le financement de l'audiovisuel. Donc, or je n'étais pas crue. Et il y a même eu un livre sur lui où il était écrit dans ce livre, il y a deux versions de l'histoire. Ben non, il n'y avait pas deux versions. Il y avait des choses, je veux dire, il y avait des éléments factuels qui auraient
pu... C'est un livre signé de Charles Chaffanjean qui, à l'époque, était journaliste au Point, voilà, mais qui, par ailleurs, dénonçait le comportement ultra-machiste de Jérôme Cahuzac, qui n'hésitait pas à dire que les femmes ministres du gouvernement de Jean-Marc Ayrault étaient nulles, et les femmes, en général, son objectif, façon, c'était de les exploser, quoi. Était dangereux pour d'autres femmes à l'Assemblée nationale?
Je ne sais pas, franchement, moi je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu d'exemple, on n'a pas fait état d'autre chose, mais je sais qu'il avait beaucoup de mal à travailler avec les femmes. Christine Lagarde était à l'époque, avant, quand on était députée d'opposition, quand elle était ministre de l'économie, et il était donc président de la commission des finances, il était absolument odieux avec elle, il la méprisait, ça se voyait, et en particulier parce que c'était une femme, oui.
Ce que vous racontez, qui est tout à fait édifiant, 2010-2014...
2012.
Oui,
2010,
mais
ah oui, mais juste ministre, avec les conséquences jusqu'en 2014.
En tout cas, dans cette période-là. Donc, avant le phénomène MeToo, question, est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous racontez là pourrait se produire encore aujourd'hui dans un gouvernement avec tout ce qui a été dit et tout? Est-ce que les choses ont avancé?
Je pense que grâce à MeToo, vraiment, les choses ont avancé. D'abord, la manière dont on parle de ces choses-là a complètement changé. Le genre d'article qu'il y a eu à l'époque sur cette affaire, sur
les
deux
d'autres,
ça n'est plus possible aujourd'hui.
On les écouterait plus attentivement.
Et puis, et je pense aussi que pour un certain nombre de prédateurs, ça leur fait quand même, ça leur sert un peu de leçon, ça leur fait un peu peur. Ce lien nécessaire à l'époque entre je suis dans une position de pouvoir, donc j'ai aussi un certain nombre de privilèges, de droits, et de toute façon, je suis intouchable. C'est un sentiment d'impunité, en fait. Je suis intouchable.
Ça a un peu bougé.
Ça a bougé, je pense. Et ça, vraiment, il faut dire merci à toutes les femmes qui se sont battues pour ça, en France, ailleurs, dans le monde. C'est une révolution. Moi, je le perçois rien qu'en... Voilà, dans ces 10 années-là de vie politique, ça a transformé vraiment notre vie.
Pierre.
Je ne sais pas si vous avez été surprise des témoignages qui accusent une nouvelle fois, et là gravement, encore plus gravement, Nicolas Hulot. Hier, nous recevions sur ce plateau Mathieu Orphelin, le député Écologie Les Verts, qui a été écarté des instances de la campagne de Yannick Jadot pour avoir été trop proche dans ses activités de Nicolas Hulot. Son premier commentaire chez nous, c'était d'abord, bien sûr, de donner crédit aux témoignages.
Écoutez, on a 5 témoignages. On en a, je crois, 2 ou 3 après l'émission. Je ne crois pas au complot ou au coup monté. Ces femmes ne se connaissent pas. Ce qu'elles racontent, il y a un certain nombre de similitudes. Nicolas Hulot, je le voyais comme, je crois d'ailleurs, Bérangère Bonte l'avait écrit dans son ouvrage. Quelqu'un qui, effectivement, était séducteur, draguait. On l'a vu faire des dragues lourdes.
Vous l'avez vu, vous en avez été témoin.
Oui, mais jamais je n'ai vu et je ne dis surtout pas que ça n'a pas existé, hein, qu'on se comprenne bien, mais jamais, jamais je n'ai vu, évidemment, ça aurait tout changé de notre rapport à Nicolas Hulot.
En fait, on se dit, Aurélie Filippetti, qu'avant MeToo, justement, la drague lourde, personne, aucun homme, ne se posait trop la question de savoir si elle n'était pas excessivement lourde.
Ah oui, il y avait un seuil de tolérance, pour le coup, voilà, extrêmement large. Vous savez, moi, je pense qu'en fait, les autres hommes, et puis aussi certaines femmes, hein, s'en fichaient complètement.
Ouais.
S'en fichaient complètement, ce n'était pas un sujet. Que des femmes se fassent harceler, se fassent parfois violenter, ça leur était complètement égal. Et donc, je pense que c'est ça le fond des choses. Aujourd'hui, les femmes sont des sujets politiques qui se sont affirmées seules grâce à MeToo. Et elles ont pris le pouvoir grâce à ça, mais pris le pouvoir sur leur propre corps. Elles ont dit, maintenant, c'est fini, ça. Qu'on nous objective, qu'on fasse de nous, comme ça, des proies, c'est terminé. Et c'est les femmes qui l'ont fait. Mais voilà, si on avait dû attendre les hommes et leur prise de conscience, voilà, on en serait encore loin.
Une toute dernière question.
Oui, Aurélie Filippetti, ce que vous dites est assez incroyable, notamment sur le thème des entourages. Vous parlez de toutes les personnes qui étaient à côté de vous et qui étaient au courant. Est-ce que vous avez pensé parler à l'époque? Est-ce que vous avez eu peur? Et pourquoi, selon vous, les autres personnes n'ont pas parlé? Est-ce qu'on vous a empêché? Est-ce que les autres personnes avaient craigné aussi Jérôme Cahuzac?
Alors non, ils avaient de la fascination pour Jérôme Cahuzac. Ils considéraient que c'était un génie, qu'il était tellement fort, tellement intelligent, on ne pouvait pas se passer de lui. Moi, j'étais députée, ministre de la Culture, une femme, jeune, entre guillemets. Voilà, ça, moi, je comptais beaucoup moins que lui. Et donc, ce que je pouvais dire, ça n'avait... Et puis, c'est tellement pratique de se dire, finalement, c'est lui qui a raison. Bien sûr, c'est une histoire d'amour qu'ils ont vécue et qui a mal tourné. Bien entendu, c'est tellement plus simple quand on ne veut pas voir un certain nombre de choses. Mais vous voyez, avec Dominique Strauss-Kahn, c'était exactement pareil. C'était même plus grave, parce qu'encore une fois, je tiens à le dire, pas d'agression sexuelle. C'est plus du harcèlement, on va dire, au sens où ça a eu des conséquences professionnelles. Mais avec Dominique Strauss-Kahn, je pense que c'est ça. Je pense que son entourage savait très bien. Mais le fait qu'il faille passer les femmes par pertes et profits, ça ne les dérangeait pas.
Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va continuer à évoquer l'actualité avec le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, l'hommage de la France à Joséphine Baker qui a fait son entrée au Panthéon ce soir.
C'est la sixième femme, première femme noire. Joséphine Baker, icône des années folles, mais pas seulement, bien sûr, on va y revenir. La cérémonie débutait en fin d'après-midi. Un cénotaphe, un cercueil vide, puisque sa famille souhaitait que le corps demeure à Monaco, mais on aura appris un nouveau mot. Un cénotaphe porté par 6 aviateurs de l'armée de l'air. C'est l'artiste qui est célébré, mais aussi la résistante.
J'ai chanté de temps à autre. Mais surtout, je faisais de la résistance parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire d'aider la France de remontrer comme elle était avant et qu'elle n'avait pas perdu pendant le commencement de la guerre, mais c'était un petit moment de malheur.
Vous étiez à cet hommage, Aurélie Filippetti, ouais. Juste avant l'émission. Résistante, c'est par amour de la France qu'elle s'est engagée?
Oui, et puis avec courage, elle a fait donc de l'espionnage pour la France. Elle est allée faire des concerts aussi pour remonter le moral, enfin soutenir le moral des troupes. Mais elle a fait effectivement des actions d'espionnage. Et puis elle a financé des centres d'accueil près de la gare du Nord à Paris pour des personnes qui se retrouvaient à la rue. Elle a accueilli chez elle, dans son château en Dordogne, la famille de son ancien mari, qui était une famille juive qu'elle a cachée. Elle a été une des premières, avec le général de Gaulle, une fervente partisane de la France libre, parce que c'était une femme libre et qui aimait la France. Donc c'est formidable. Cet hommage était magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Et ça honore notre pays de pouvoir faire ça. Et ça honore notre pays de voir des femmes de cette trempe qui vraiment avaient choisi la France.
Justement, la multitude des combats de Joséphine Baker auxquels Emmanuel Macron a voulu rendre hommage.
Ce n'est pas la femme de couleur, la noire, qui ira là-bas. C'est une femme. Joséphine Baker ne défendait pas une couleur de peau. Elle portait une certaine idée de l'homme et militait pour la liberté de chacun. Sa cause était l'universalisme, l'unité du genre humain, l'égalité de tous avant l'identité de chacun.
La résistante, ses combats, son parcours, c'est tout simplement aussi la première artiste de scène à faire son entrée au Panthéon. Et il y avait de la musique ce soir.
De politique et de féminisme, il en est aussi question avec le lancement de la maison commune de la majorité.
Ensemble, citoyens,
en transition.
Point d'exclamation. Oui. Attention, c'est une agglomération. Faites tous les malins. C'est une agglomération des mouvements qui auront pour mission d'accompagner Emmanuel Macron à la présidentielle, puis de se bagarrer ensuite pour quelques sièges à l'Assemblée. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Oui.
Mais, tiens, les mouvements, les petits partis, on pourrait presque jouer. Il y a qui dans cette maison commune, messieurs?
Agir. Oh bah,
madame.
Facile.
La le Modem, la République en Marche.
Agir, Horizon.
Territoire de progrès.
Et en commun.
Et en commun. Il en manque
beaucoup,
David.
On oublie, alors, vous dire, on oublie toujours la jambe gauche du macronisme parce qu'elle se fait discrète.
Oui, c'est ça.
Elle existe.
Donc on a tendance à l'oublier.
Non, ah oui, bon, je me suis perdue. Mais oui, je suis complètement retirée.
Oui, là, je tiens, très retirée.
Alors, vous allez écouter ça attentivement, j'en suis sûr. Autant de femmes que d'hommes sur cette photo de famille. C'était une promesse du patron des marcheurs, Stanislas Guérini. Mais en termes de parité, notamment dans les responsabilités, la maison de la majorité peut mieux faire. Ce sont des députés LREM qui le disent, Aïban Raïs et Camille Schmitt.
Oui, il y a clairement un problème de parité. Disons qu'on a changé les choses en ayant un groupe pour la première fois paritaire. Mais ça n'a malheureusement pas suffisamment suivi au niveau des postes à responsabilité. Quand vous êtes une femme de caractère, vous êtes une femme à problème, une femme ingérable. Donc, mais moi, je prends ce risque-là, je suis une femme libre, je le fais, je prends la parole aussi pour les autres.
Il nous reste à conquérir le dernier cercle du pouvoir qui est jalousement gardé par des gens qui sont là depuis longtemps, et les gens qui sont depuis là longtemps, c'est en général des hommes.
C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi et j'espère qu'on le réussira mieux au prochain quinquennat, en effet.
Alors, il ne suffit pas de compter autant de femmes que d'hommes après, dans le détail, dans le progrès. Il faut qu'on regarde justement à quel poste et à quelle responsabilité se trouvent ces femmes.
Oui, c'est ça, c'est le fameux plafond de verre, en fait. Parce qu'en fait, arithmétiquement, maintenant, c'est assez facile d'avoir à peu près 50-50. Et le problème, c'est que moi, quand j'avais vu le lancement, je ne sais plus, il y avait un journal qui avait fait sa une sur le lancement de ce mouvement, ben, en fait, il y avait 6 hommes en photo.
Oui, c'est vrai.
Et donc,
ils ont rectifié le tir,
les responsables,
peut-être.
Voilà.
Mais on a fait, il y a quelques jours, dans le Parisien, un papier où sont les femmes de la majorité. Je crois que vous l'avez lu.
Ça nous a un peu inspiré le sujet.
J'ai l'impression, mais tant mieux. Tant mieux, bien sûr. Et je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de retours. Ça a mis un coup de pied dans la fourmilière, un pavé dans la mare, vous voyez. Et par exemple, Richard Ferrand, François Bayrou ont été saisis de ce sujet-là. Il y a d'ailleurs un groupe de députés femmes, les Simones. Elles ont créé, en hommage à Simone de Beauvoir, pour justement essayer de faire avancer les choses.
Éric Zemmour, ce grand féministe, il va avoir des femmes dans son équipe de campagne et à son gouvernement? Ou la parité, ce n'est pas son problème?
C'est une partie des gros problèmes, parce qu'il y a un électeur sur deux en France qui est une électrice, et ces taux d'intention de vote chez les femmes sont désastreusement bas, notamment dû à des punchlines peu heureuse sur la jante féminine, mais ça fait partie des sujets effectivement pour la suite. Ouais.
Le variant Omicron continue d'affoler la planète.
Détecté dans de plus en plus de pays, un premier cas identifié à La Réunion, d'autres résultats de tests attendus. Aux Pays-Bas, on apprend que Omicron était présent le 19 novembre, avant l'alerte sud-africaine, donc on ne sait pas encore si les cas concernés venaient d'Afrique du Sud ou non, quoi qu'il en soit. On s'inquiète de sa contagiosité, on l'a dit, de sa virulence, on l'a dit, et de sa résistance au vaccin. L'un des premiers à avoir annoncé un vaccin l'an dernier, c'est le laboratoire Moderna. Et son patron, le français Stéphane Bancel, n'est pas franchement rassurant.
It took around 4 months for Delta to take over Beta, and it seems it's taking just a couple of weeks for this new variant to take over Delta. So that's something to keep in mind. Given the large number of mutations, it is highly possible that the efficacy of the vaccine, all of them, is going down.
L'un des premiers donc à avoir annoncé un vaccin il y a un an, Moderna. En attendant, c'est toujours le variant Delta qui domine chez nous. La Haute Autorité de Santé recommande depuis ce matin la vaccination de certains enfants. Les 5-11 ans à risque de formes graves, ceux également qui vivent avec des personnes immunodéprimées. Et comme c'est une question qui fait débat dans les familles, Audrey Payas et Michael Robert ont demandé à des parents s'ils se sentent prêts ou non à vacciner leurs enfants.
Je ne suis pas contre le vaccin,
Mais en l'occurrence, celui-là, il y a trop peu de recul et de visibilité sur du long terme. Donc quand ils sont petits, on ne sait pas quand ils seront ados, adultes, ce que ça peut entraîner.
Je fais confiance au vaccin et aux médecins, donc justement oui.
Je serais très embêté. J'aurais un cas de conscience et je crois que j'essaierai de l'éviter le plus possible.
J'ai un enfant de 8 ans, du coup, j'ai pas encore décidé sur ce point-là.
Moi, je suis vaccinée, ça m'inquiète pas, mais pour mes enfants, je sais pas, on n'a pas trop de recul.
Aujourd'hui, c'est un débat que j'ai avec mon épouse. Et oui, on est pour que les enfants soient vaccinés.
On va juste rappeler que certains pays ont déjà choisi de vacciner les 5-11 ans, Israël, les États-Unis notamment. En attendant, on continue à vacciner les adultes, à tenter de convaincre les réticents et à encourager à une troisième dose. Je vais vous montrer l'extrait d'une interview du ministre de la Santé britannique sur Sky News. Chaque dose de rappel comptera, mes amis. Alors il embarque le journaliste qui l'interroge. Regardez.
Je n'ai pas mon second until the 14th of June. So under the six-month rule, that takes the 14th of December.
But under the new rule, you'll be okay.
Yeah, exactly.
You
yeah.
Come back here later this week.
Yeah. What time do they open here?
They open till 8, I think. Oh, right. In fact, they might give it to you now if you walk in.
You think so?
Yeah. Make me a promise. Just go and do it now.
I'll see.
Go on. See bonus. No. Just I'll tell the office. You tell them. You go. Go in there. Do you want me to go with you?
Can I go and get my jab?
No. Come on. I'll walk in with you. Come on. Let's do it.
Oh, gosh.
Are you ready?
Yeah, I'm cool. I'm good.
Alors méfiez-vous la prochaine fois qu'Olivier Véran vient.
Oui, il va venir.
Il va embarquer ceux qui ne sont pas.
Merci beaucoup Mathieu. On en parlait, une drague lourdingue ou une agression sexuelle, un acte consenti ou subi en silence. À mesure que la parole se libère à chaque fois, à chaque nouvelle affaire s'opposent les versions des agresseurs présumés à celles de leurs victimes autour de la notion de consentement, cette fameuse zone grise.
Pourquoi est-ce si compliqué de définir cette zone grise? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle existe, à votre sens?
Alors, pour moi, elle n'existe pas. Pour moi, c'est en fait c'est le déni. Et ça, en fait, c'est peut-être l'originalité du livre, c'est que j'ai choisi de me placer du point de vue de l'agresseur et de sa famille. Il y a beaucoup de témoignages de victimes, et finalement, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de l'agresseur. Et quand vous allez au palais de justice, vous découvrez ce qu'il y a dans la tête de l'agresseur, parce qu'il quand même, il parle, il se révèle. Et il y a souvent du déni, le refus de voir ce que l'on a fait.
Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, bonsoir à tous les deux. Merci de votre présence. La notion de consentement, il était au cœur de ce roman de Karine Thuil, Les choses humaines, que vous adaptez au cinéma. Yvan, avec Charlotte, mais aussi votre fils Ben et la jeune Suzanne Joannet, qui sont formidables, qui nous rejoignent dans un instant. Si vous avez eu envie de prolonger ce roman, c'est parce qu'en le lisant, vous avez été bouleversé, ému autant par l'accusé, qui aurait pu être votre fils, que par la plaignante, qui aurait pu être votre fille.
En fait, j'ai été ému par les parents du garçon et par les parents de la fille. Je me suis totalement identifié aux parents, évidemment pas aux protagonistes. Je me suis mis à la place de ces parents, des parents du garçon, en me disant si demain mon fils était au cœur d'une histoire pareille, et évidemment du côté des parents de la fille. Et du coup, je trouvais que faire un film où on ne sait pas de quel côté on a envie d'être réellement, parce qu'il y a deux, évidemment qu'il y a une victime identifiée comme telle, mais quoi faire de ce jeune homme? Et du coup, ça m'a bouleversé. Le livre aussi parle de tous les dommages collatéraux, etc. Donc des grandes questions du consentement, mais aussi de la difficulté de juger, etc. Il y avait tellement de choses dans ce livre.
Que vous en faites un très beau film.
Merci beaucoup.
Qui prend le temps d'exposer et lui et elle, et puis les plaidoiries et les réquisitions. On est au tribunal, on suit pas à pas les arguments de la défense, de l'accusation. C'est passionnant. La notion de consentement, Charlotte. On est d'une génération, et je pense qu'Aurélie Philippetti peut témoigner, il n'en était pas question, on ne nous en parlait pas.
Pas du tout. Mais moi, je venais quand même d'une... Enfin, j'ai l'impression que dans ma famille, les femmes étaient très fortes, avaient une place très importante. Et je me sens...
Et je me sentais finissez votre phrase, je vous en supplie, Charlotte.
Non, mais je me sentais féministe depuis toujours.
De naissance. On en parle très longuement. Dans un instant, chère Charlotte, les choses humaines. Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Ben Attal et Suzanne Joannet sont nos invités.